Bonjour à tous. La semaine dernière, nous faisions la synthèse de ce que les philosophes de l'Europe des Lumières ont retenu de la médiation jésuite et de ce qu'ils ont exploité de la Chine, et plus particulièrement du Confucius des jésuites. Nous avions souligné que, à quelques exceptions près, celle de Leibniz notamment, ce sont des représentations de la Chine et non pas la Chine elle-même qui suscite l'intérêt des élites européennes. Au fond, la Chine, prise comme entité essentialisée, lointaine et abstraite, n'est invoquée qu'à titre de prétexte, qu'à titre d'argument pour ou contre, dans des débats déjà en cours. Et nous nous étions à ce propos étonnés que cette utilisation de la Chine comme l'autre, avec un grand A, que ce soit en positif ou en négatif, connaissent encore aujourd'hui, c'est-à-dire trois siècles plus tard, un succès médiatique considérable et jamais démenti. Je cite à ce sujet notre très savant collègue Michel Cartier, C-A-R-T-I-E-R, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, l'EHESS. Michel Cartier dit ceci: il est permis de se demander si toutes ces images, il est en train de parler donc de l'Europe des Lumières, si toutes ces images se réfèrent bien à une Chine réelle ou si nos auteurs ne sont pas avant tout occupés à construire des représentations à l'usage de l'Occident, au point qu'on peut se demander si la Chine n'a pas été depuis toujours utilisée comme un simple prétexte pour fabriquer au choix une utopie ou le symbole de l'altérité. Et Lionel Jensen, donc ce sinologue américain dont nous avons mentionné plusieurs fois l'ouvrage au demeurant assez controversé, qui s'intitule « Manufacturing Confucianism », donc « Fabriquer le confucianisme », Lionel Jensen donc défend pour sa part la thèse selon laquelle les jésuites auraient inventé de manière concomitante et en vis-à-vis, d'un côté donc la figure du maître du ciel, Tianzhu, qui est une manière sinisée de désigner le Dieu unique des chrétiens, donc le maître du ciel qui s'adresse aux Chinois, et en face, donc en vis-à-vis, la figure de Confucius, qui, elle, est une version latinisée donc du Philosophus Sinarum, donc du philosophe des Chinois, figure qui, elle, s'adresse aux Européens. Donc, selon Jensen, les jésuites auraient par là même inventé la figure de l'altérité dans cet effet de mise en miroir, hein, de miroir croisé. Et Confucius deviendrait de ce fait l'emblème de la Chine comme autre de l'Europe christianisée, donc soit positivement en incarnant donc le philosophe des Chinois pour certains, soit négativement en incarnant donc le sage païen sans Dieu ni foi. Et il est encore une fois curieux de constater que c'est ce genre de poncif est loin d'être mort. Et je vous renvoie à ce propos à l'article de Frédéric Keck, ça s'écrit K-E-C-K, dans un numéro récent de la revue Esprit. C'est un numéro de février 2009. Le numéro s'intitule « L'universel dans un monde post-occidental ». Et l'article de Frédéric Keck est intitulé « Une querelle sinologique et ses implications », deux points, à propos du contre-François Julien de Jean-François Bilter. Alors, je rappelle qu'il s'agit là d'un court essai de notre collègue sinologue de Genève, Jean-François Bilter, qui est paru en 2006 aux éditions Alia. Et donc, Frédéric Keck revient donc sur cette querelle, ce qu'il appelle cette querelle sinologique, dans ces termes. Dire que la Chine est autre, mais que nous pouvons en saisir le sens si nous nous débarrassons de nos catégories de transcendance pour entrer dans les sinuosités de la pratique chinoise, cela peut paraître très nouveau dans le contexte post-maoïste de la France des années 1990, mais c'est en fait la reprise d'un très vieux thème apparu avec les premières lettres édifiantes et curieuses des jésuites européens envoyés en Chine et que Voltaire a popularisé en les moquant. Que la Chine, donc continue Frédéric Keck, que la Chine ignore le concept d'un dieu transcendant, mais que toutes ses pratiques soient imprégnées d'un esprit de régulation, et là il reprend un terme cher à François Julien, c'est ce qui avait provoqué l'admiration à la fois des jésuites et de Voltaire. Les premiers, c'est-à-dire les jésuites, parce qu'ils y voyaient la base d'une conversion aisée de l'empereur au christianisme, entre parenthèses, il ne leur manquait plus que le concept de Dieu pour harmoniser leur conception du monde, et le second, c'est-à-dire Voltaire, parce qu'il y voyait la possibilité d'une société ordonnée sans Dieu ni prêtre, sous la direction d'un empereur éclairé. Fin de citation. Alors, ces dernières semaines, nous avons retracé dans ces grandes lignes la formation justement de cette représentation de la Chine comme l'autre par excellence dans la pensée des Lumières. Et comme nous l'avons vu la semaine dernière, cet autre peut être perçu positivement par des penseurs comme Voltaire ou Leibniz, ou négativement par d'autres comme Fénelon ou Malebranche. Mais il faut garder à l'esprit que ces positions sont le plus souvent dictées par la manière dont ces penseurs se situent par rapport à la question religieuse, notamment par rapport à la stratégie des jésuites en Chine, cette fameuse stratégie d'accommodement. Donc, il faut tenir compte justement de la manière dont ces penseurs se situent par rapport justement à cette question religieuse, bien plus que par rapport à la Chine elle-même, qui, une fois de plus, ne sert que de prétexte. De fait, on voit les polémiques s'exacerber autour de 1700, c'est-à-dire au tournant entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, dans le contexte de ce qu'il est convenu d'appeler la querelle des rites. Cependant, on peut considérer que la vague de sinomania de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle retombe de manière très nette au milieu du XVIIIe siècle, c'est-à-dire autour de 1750, point à partir duquel cette sinomania commence à basculer dans son contraire, c'est-à-dire une vague de sinophobie, pourrait-on dire, qui ira en s'aggravant tout au long du XIXe siècle. Et donc, c'est ce processus que je me propose de retracer avec vous aujourd'hui, là aussi de manière très sommaire. Je rappelle que nous ne faisons pour l'instant que poser des balises qui nous serviront de repères lorsque nous aborderons la lecture des entretiens de Confucius eux-mêmes. Enfin, me direz-vous. Il me paraissait important, j'espère que je vous ai au moins à moitié convaincu, qu'il était important au préalable, d'une part, de faire un tour d'horizon assez large pour avoir une idée du paysage dans lequel nous évoluons. Je pense qu'il est toujours important d'avoir une idée d'ensemble, d'un lieu ou d'un paysage pour savoir où on se situe dans ce paysage. Et d'autre part, ça me paraissait aussi important pour que nous puissions prendre pleinement conscience des fameuses lunettes que nous portons pour lire Confucius et ses entretiens. Il faudrait même aller plus loin, puisque, en effet, les lunettes, on peut les enlever, quitte à ne plus rien voir du tout, mais on peut les enlever quand même. En revanche, ce qui me paraît beaucoup plus difficile à enlever, c'est la sédimentation d'idées toutes faites, de poncifs et de préjugés qui se sont incrustés dans nos esprits jusqu'à passer maintenant pour des évidences, sans jamais être véritablement mises en question ou en perspective. Et à ce titre, montrer que chacune de nos conceptions et même chacune de nos catégories, même celles qui semblent les plus profondément enracinées, donc montrer que chacune de ces conceptions ou catégories a une histoire, c'est, me semble-t-il, contribuer à la replacer dans un questionnement critique. Donc, d'où ces espèces de, comment dire, de cercles d'abord très larges et ensuite de plus en plus resserrés que je fais en tournant donc autour du pot. Mais rassurez-vous, nous allons y arriver, au pot. Donc, pour plus de précision sur ce complet retournement de la sinomania à la sinophobie ou au rejet de la Chine, un retournement d'autant plus spectaculaire qu'il se joue en l'espace de seulement quelques décennies, je vous réfère à plusieurs ouvrages importants. J'ai déjà mentionné L'Europe chinoise d'Étiamble, qui est daté de 1988, dont le tome 1, je vous le rappelle, allait de l'Empire romain à Leibniz. Et le tome 2 s'intitule de manière tout à fait significative « De la sinophilie à la sinophobie ». D'autre part, je citais tout à l'heure notre collègue Michel Cartier à partir d'un volume collectif qu'il a dirigé et qui s'intitule, là aussi de manière assez significative, « La Chine entre amour et haine ». Alors, il s'agit des actes du 8e colloque de sinologie de Chantilly. Alors, ces colloques de sinologie de Chantilly qui se tiennent maintenant à l'Institut Ricci de Paris, ces colloques donc sont organisés, comme leur nom l'indique, par les jésuites Et donc, ce huitième colloque a vu ses actes publiés par les éditions Desclée de Brouwer en 1998. Donc là, les jésuites sont encore très très présents donc, dans les études chinoises. J'ai eu l'occasion de vous signaler l'année Ricci, donc, dont le lancement se produit ce samedi donc, au Centre Sèvres, qui est un centre des facultés jésuites. Ces colloques de sinologie ont lieu tous les ans. Hein, donc, ce colloque-là donc, portait justement sur cette question donc, du passage de la sinophilie à la sinophobie. Et c'est donc cette question que Michel Cartier aborde dans son introduction à ce volume collectif. Alors, il y a dans ce retournement, me semble-t-il, plusieurs facteurs qui convergent pour provoquer un déplacement de la Chine dans la géographie intellectuelle de l'Europe entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Alors, tout d'abord, c'est vers le milieu du XVIIIe siècle, au moment où l'attention des philosophes européens, français notamment, au moment où leur attention se focalise sur la théorie politique, que la Chine cesse de faire rêver et commence de quelque manière à décevoir les élites européennes. Donc autour de 1750, on note ce tournant très net qui marque le début de ce qu'on pourrait appeler un désenchantement de la Chine que nous allons examiner ensemble aujourd'hui. Alors Michel Cartier, dans sa propre contribution au volume donc, que j'ai mentionné tout à l'heure, « La Chine entre amour et haine », montre comment une même source peut donner lieu à des lectures diamétralement opposées. Alors, l'une des sources d'information les plus influentes et les plus citées dans l'Europe du XVIIIe siècle, avec le Confucius Sinarum Philosophus, dont j'ai déjà parlé et dont il sera de nouveau question donc, avec Thierry Ménard, ici même le 16 février. Donc, avec le Confucius Sinarum Philosophus, une autre source importante est la monumentale encyclopédie due également à un jésuite, le père Jean-Baptiste du Halde, qui a vécu entre 1674 et 1743. Le père Jean-Baptiste du Halde, dont vous avez le nom ici. Donc, cette sorte de somme encyclopédique s'intitule, elle a un titre très long, elle s'intitule « La description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l'Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise », donc publiée en 4 volumes, en 1735. Et je vous rappelle à ce propos un ouvrage qui porte justement sur cette somme par Isabelle Landry de Ron. C'est vraiment quelque chose qui fait comment dire le point, je pense, le plus exact sur cet ouvrage qui s'intitule « La preuve par la Chine ». Et qui porte justement sur cette description de Jean-Baptiste du Halde, jésuite, 1735, paru aux éditions de l'ES en 2002. Et Isabelle Landry de Ron est également l'auteur d'un article dans ce volume collectif, La Chine entre amour et haine, qui porte justement sur les répercussions de la description de du Halde chez les pionniers de la sinologie. Alors, Michel Cartier, donc, montre comment cette description du père du Halde a été utilisée dans des perspectives opposées par deux penseurs majeurs du XVIIIe siècle français qui se sont intéressés à la question des institutions. Alors, c'est ainsi que les représentations du système politique de la Chine d'alors apparaissent sous un jour globalement négatif dans De l'esprit des lois de Montesquieu, dont la première édition date de 1748, et dans un jour carrément positif dans Le despotisme de la Chine de Quesnay, paru en 1767. Alors que Montesquieu et Quesnay puisent tous les deux la plupart de leurs informations dans la même description du même Dualde. Alors, comme le note Michel Cartier, on a surtout retenu de l'esprit des lois de Montesquieu le fameux chapitre 21 du livre 8 qui conclut de manière péremptoire au caractère despotique de l'Empire chinois. Or, de toute évidence, Montesquieu s'est sérieusement documenté et a lu très attentivement ses sources, notamment donc la description de Dualde, à laquelle il fait des références explicites et précises. Il semblerait, au demeurant, que ce soit à Dualde qu'il doit son idée, justement, de despotisme chinois. C'est en effet, dans le volume 2 de la description de Dualde, qu'il est écrit, je cite, « de sorte qu'on peut dire que le gouvernement chinois ne subsiste guère que par l'exercice du bâton ». Et dans justement ce chapitre 21 du livre 8, Montesquieu commence en disant ceci, il s'agit du chapitre conclusif du livre 8 de l'Esprit des lois qui s'intitule « De l'Empire de la Chine ». Et Montesquieu écrit ceci « Avant de finir ce livre, je répondrai à une objection qu'on peut faire sur tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Nos missionnaires nous parlent du vaste empire de la Chine comme d'un gouvernement admirable qui mêle ensemble dans son principe la crainte, l'honneur et la vertu. J'ai donc posé une distinction vaine lorsque j'ai établi les principes des trois gouvernements. J'ignore ce que c'est que cet honneur dont on parle chez des peuples à qui on ne fait rien faire qu'à coups de bâton. » Donc là, nous avons l'image donc assez tranchée, donc, d'un peuple soumis donc par le bâton. Alors évidemment, ce n'est pas justement faire tout à fait justice à l'information donc de Montesquieu qui est, comme je l'ai dit, en réalité très très soigneuse. Alors sans vouloir entrer dans le détail, tout en restant conscient de la complexité du problème, on se contentera pour l'instant de constater que Montesquieu semble éprouver une certaine difficulté à faire entrer ce qu'il perçoit de l'organisation politique chinoise dans les catégories traditionnelles héritées des Grecs, à savoir donc aristocratie, monarchie, démocratie. Alors, dans l'esprit des lois, et là, le court début du chapitre 21 du livre 8 que je viens de lire y fait allusion. Donc, dans l'esprit des lois, les républiques sont en principe régies par la vertu, les monarchies par le sentiment de l'honneur et les régimes despotiques par la crainte. Or, Montesquieu ne sait pas trop, apparemment, si l'Empire chinois est à ranger parmi les régimes monarchiques ou les régimes despotiques. Alors, il est intéressant de noter à cet égard que Montesquieu se montre sensible à la distinction ethnique, pour ne pas dire raciale, entre les Chinois et les Tartares mandchous, qui, je vous le rappelle, ont conquis le pouvoir impérial en 1644, c'est-à-dire donc un siècle avant la parution de l'Esprit des lois. Alors, selon Montesquieu et sa fameuse théorie des climats, vous avez donc d'un côté les Tartares mandchous qui, en tant que peuplade du Nord, posséderaient le sens de l'honneur, qui est donc dans l'esprit de Montesquieu associé à la monarchie, et de l'autre, vous avez les Chinois qui ont tous les travers des méridionaux. Alors, à savoir l'avidité, la fourberie, oui, alors merci pour les méridionaux, donc manque de courage physique, la veulerie qui leur fait, par exemple, abandonner leurs enfants en cas de disette, etc., etc. Alors, autant de travers qui rendent donc ces Chinois caractérisés comme méridionaux extrêmement serviles et donc faciles à soumettre par un régime despotique. Alors, je remarque en passant que cette image du Chinois fourbe, cruel et dépourvu de sens de l'honneur va, si j'ose m'exprimer ainsi, lui coller à la peau, notamment dans l'imaginaire colonial, jusqu'à la caricature, et jusqu'à une époque pas aussi lointaine qu'on pourrait le penser. Je fais allusion ici à une vaste littérature et à certaines aussi représentations iconographiques et même cinématographiques. Alors, soit dit en passant aussi, Montesquieu a certes eu raison de faire la distinction entre Chinois et Mandchous, mais au lieu de n'y voir qu'une différence ethnique, il aurait peut-être mieux fait de relever, s'il avait eu les connaissances requises, que le régime politique, depuis la prise du pouvoir par les Mandchous, était devenu sensiblement plus autoritaire qu'il ne l'était sous la dynastie chinoise précédente des Ming. Et là, c'est pour moi l'occasion de rappeler une fois de plus que la Chine dont parlent donc nos philosophes des Lumières est une Chine mandchoue, hein, et non plus donc une Chine entièrement chinoise. Alors, toujours est-il que, après moult hésitations et tergiversations, Montesquieu finit par opter pour la caractérisation despotique du régime de l'Empire sino-manchou. Et Michel Cartier conclut son article dans ces termes, je cite, « La Chine lui apparaîtrait à Montesquieu, comme une variante quelque peu atypique d'un modèle politique dont le prototype serait à chercher plutôt du côté de l'Empire ottoman ou de la Perse. » Autrement dit, nous avons là la fondation donc du fameux concept du despotisme oriental. Alors, cependant, encore une fois, et j'y insiste, il ne s'agit évidemment pas de réduire les considérations de Montesquieu sur la Chine à ce seul jugement. Il me semble, pour ma part, et j'aurai l'occasion d'y revenir, que Montesquieu a mis au moins le doigt sur un problème important suscité par le modèle politique chinois, du moins tel qu'il a pu le comprendre, à savoir l'absence de distinction claire entre ce qu'il appelle loi, mœurs et manières, ou, si l'on préfère, entre loi et rite, ou bien encore entre la dimension politique et la dimension morale de l'exercice du pouvoir. Et en cela, Montesquieu apparaît en quelque sorte comme le précurseur des critiques que l'on entend émaner encore actuellement des milieux intellectuels libéraux en Chine, qui, eux, justement, se réclament du fameux principe justement de la séparation donc des pouvoirs et de la distinction. Alors, sur la question du despotisme, la position de Montesquieu suscite une réponse, mais manque de chance, une réponse largement posthume, puisque c'est près de 20 ans après la parution de l'Esprit des lois, dont la première édition, je le rappelle, date de 1748, et 12 ans après la mort de Montesquieu, donc en 1755, que Quesnay, François Quesnay, le fameux physiocrate, lui-même alors âgé de 74 ans, éprouve le besoin d'écrire donc le despotisme de la Chine, qui paraît en 4 livraisons successives de mars à juin 1767 dans les éphémérides du citoyen. Là, on sent se rapprocher la révolution. Alors, on peut s'interroger sur le pourquoi de cette réponse tardive par un homme qui est déjà âgé, et qui, c'est une réponse qui en plus intervient de surcroît à un moment où la sinomania est sérieusement retombée. Alors, Quesnay, dans Le despotisme de la Chine, expose de manière lui aussi très documentée et argumentée l'idéal de, entre guillemets, despotisme éclairé, même si l'expression ne figure pas sous sa plume dans cet écrit, despotisme éclairé qui serait incarné, selon Quesnay, par la Chine de son époque. Donc, il s'agit d'un idéal de monarchie laïque soumise à la seule loi naturelle. Nous retrouvons ici donc cette fameuse notion de loi naturelle dont nous avons déjà parlé précédemment. Alors, comme le remarque Michel Cartier, c'est comme si Quesnay avait voulu se persuader que son idéal existait réellement quelque part à l'autre bout du monde connu, un peu à la manière, je l'ajoute, c'est une parenthèse que j'ajoute, ça n'est pas de Michel Cartier, un peu à la manière des maoïstes des années 1970, qui ont réussi à se persuader que leur idéal politique s'était réalisé dans la Chine de la Révolution culturelle. Je referme la parenthèse. Alors, que le despotisme soit oriental ou éclairé, il s'agit dans tous les cas d'un autre mythe qui vient se substituer au mythe de la Chine philosophique qui avait fait fureur pendant la première moitié du XVIIIe siècle. Donc nous avons ici finalement la substitution d'un mythe à l'autre. Alors, cette caractérisation de la Chine comme despotique fera qu'après la révolution de 1789, plus personne en Europe n'aura l'idée de se référer à la Chine comme modèle. Alors, j'en arrive ici à un deuxième facteur justement de ce fameux retournement entre sinophilie et sinophobie, puisqu'il faut ajouter ici que la thèse du despotisme oriental trouve des alliés objectifs dans les lumières anglaises et plus spécifiquement écossaises, c'est-à-dire donc ce que les Anglais appellent « the Enlightenment ». Alors, je remarque juste au passage que la notion de lumière ne revêt pas une signification uniforme selon qu'on parle des lumières françaises de l'Enlightenment anglais ou écossais ou de l'Aufklärung allemande. Hein. Donc là, nous avons un phénomène qui est très diversifié à travers l'Europe. Hein. Là, je n'ai pas le temps de m'y étendre, mais disons que nous avons ici une sorte de paysage très varié donc, de l'Europe des Lumières, hein, dans laquelle donc, se déplace notre Chine. Hein. Alors, dans la première moitié du XVIIIe siècle, il se trouve encore des Anglais hein, à peu près aussi sinophiles que notre Voltaire national. On citera en exemple quelqu'un qui s'appelle Eustace Budgell, qui est né en 1686, hein, ce qui en fait donc effectivement un contemporain de Voltaire, un personnage à la vie extrêmement agitée, tellement agitée qu'il finisse par se suicider en 1737 en se jetant dans la Tamise sous le London Bridge, hein, sous le pont de Londres. Donc, personnage haut en couleur, qui écrivait ceci en 1731. Et là, vous allez voir qu'il y a une petite pointe à l'égard des Français. The great, alors je vous la lis d'abord en version originale. Donc, the great point in which all authors who have wrote of the Chinese do generally agree that they excel all other people in is the art of government. Donc, le point important sur lequel tous les auteurs qui ont écrit sur les Chinois convergent, s'accordent. Le point sur lequel ils sont d'accord que les Chinois donc ont surpassé les autres peuples, c'est donc l'art de gouverner. À citer Budgell. Donc, even the French are obliged to own ingenuously that the Chinese do excel all other nations in the art of government and can never sufficiently admire those political maxims collected, methodized and commented upon by the great Confucius. Donc, même les Français sont obligés donc de convenir en toute franchise que les Chinois sont effectivement supérieurs à toutes les autres nations pour ce qui est de l'art de gouverner, hein, et même ces Français ne peuvent admirer suffisamment les maximes politiques qui ont été collectées, mises en ordre et commentées par le grand Confucius. Donc là, nous avons un Anglais, donc de l'Enlightenment anglais, donc qui est tout à fait en accord avec donc ses congénères français. Hein, donc avec cette petite pique à l'égard des Français, même les Français sont obligés d'en convenir. Hein. Mais comme le note toujours Michel Cartier, donc la vision idéalisée des Jésuites est contrée dès le milieu du XVIIIe siècle, non seulement par les adversaires des jésuites et par les penseurs politiques, comme on vient de le voir, mais aussi par des témoignages d'origine anglaise qui relatent des aspects beaucoup moins flatteurs. Vous avez d'abord, en 1748, un ouvrage qui est immédiatement traduit en français l'année suivante et qui s'intitule « Voyage round the world in 1740 to 1744 », c'est-à-dire donc un voyage, alors là c'est un faux ami, hein, les faux amis, fameux faux amis anglais, ça ne veut pas dire un voyage, c'est en général une expédition donc par mer, hein, donc l'expédition donc autour du monde de 1740 à 1744, du commodore George Anson, ça s'écrit A-N-S-O-N, et qui porte un premier coup de boutoir justement dans la Chine idéalisée des jésuites. Et il est tout à fait intéressant justement de constater que Montesquieu, dans le chapitre 21 du livre 8 dont je vous lisais le début tout à l'heure, fait référence justement au témoignage de ce navigateur anglais, hein, en disant les Anglais nous apprennent que la Chine n'est pas aussi idéale que voudraient nous le faire croire les jésuites. Et il dit en particulier que les commerçants anglais ont été en butte au brigandage des mandarins. Autrement dit, les mandarins s'en mettent plein les poches au passage. Donc là, les Anglais n'ont pas manqué effectivement de relever cette pratique de la corruption donc dans les rangs de la bureaucratie impériale. Bien. Alors ensuite, vous avez dans les années plus tard, dans les années 1790, alors que la tourmente révolutionnaire française est passée, un autre témoignage, là aussi d'origine anglaise, qui s'intitule « An historical account of the embassy to the Emperor of China », c'est-à-dire un rapport historique sur l'ambassade auprès de l'empereur de Chine, dont le premier tome paraît en français donc en l'an 4 de la Convention, c'est-à-dire en 1795, sous le titre « Relations de voyage du Lord Macartney », puisque c'est de lui qu'il s'agit, donc de voyage à la Chine dans les années 1792, 93 et 94. Et c'est un ouvrage qui a été réédité donc aux éditions Aubier en 1978. Alors, vous avez ici donc ces témoignages anglais qui, eux, sont beaucoup plus lucides et beaucoup plus réalistes, évidemment, que ceux des jésuites, puisque eux ne sont pas, évidemment, commandés par une politique de conversion. Ceci dit, je me suis trouvée à faire la connaissance récemment d'un chercheur à l'Academia Sinica de Taïwan, du nom de Chen Zhengguo, donc Zhengguo, c'est-à-dire donc rectifier le pays, prénom confucéen s'il en fut. Donc ce chercheur de l'Academia Sinica de Taïwan s'est intéressé, entre autres, à la perception de la Chine par les Lumières écossaises. Et il a montré de façon très intéressante comment les penseurs du Scottish Enlightenment sont passés d'un diagnostic relativement positif sur la Chine à un diagnostic presque entièrement négatif qui rejoint les positions de Montesquieu sur le despotisme oriental, mais qui était sans doute dicté au moins en partie d'une part par l'hostilité des penseurs de tradition évangéliste à l'égard des révolutionnaires français, et en autre partie par les intérêts des Britanniques qui, justement, à partir du milieu du XVIIIe siècle, commencent à coloniser l'Inde. L'Inde qui se trouve désormais placée en contraste par rapport à la Chine. Donc vous voyez comment la Chine se déplace justement dans cette géographie à la fois orientale, orientalisante et européenne. Alors il est intéressant aussi, bien sûr, de constater là aussi que nous avons des collègues en Chine et à Taïwan qui font un petit peu le travail inverse de celui que nous faisons, c'est-à-dire qui voient un petit peu quelle est, du point de vue chinois, justement, l'image de la Chine dans les lumières européennes. Alors, cette référence à l'Inde est importante dans notre propos, puisque le contraste qui est ainsi introduit entre l'Inde et la Chine, l'Inde et la Chine qui étaient pourtant jusque-là associées dans l'imaginaire de l'autre oriental. Alors, ce contraste est le propos central d'un livre qui s'intitule « L'Orient au miroir de la philosophie », deux points, « La Chine et l'Inde, de la philosophie des Lumières au romantisme allemand ». Alors, il s'agit d'une anthologie de textes qui ont été choisis et présentés par Marc Crépon. Alors, ça s'écrit C-R-E accent aigu P-O-N. Une anthologie qui est parue aux presses Pocket en 1993. Alors, Marc Crépon se place sur un terrain résolument philosophique pour passer en revue diverses manières dont les philosophes européens se sont d'abord mis avec enthousiasme à utiliser la Chine dans leur dispositif d'argumentation et comment, presque aussi brusquement, ils s'en sont désintéressés. Marc Crépon montre à ce propos comment s'est opéré un glissement de la sinomania à une indomania, à un engouement pour l'Inde qui, elle, ne s'est pas vue assigner le même rôle que la Chine par les esprits des Lumières, étant donné que sa société dite de caste interdisait d'y voir un modèle sociopolitique. Donc là, vous aviez une sorte de répartition du travail entre l'Inde et la Chine. Alors, à la Chine était dévolu donc le mythe de la Chine philosophique, tandis que l'Inde, dont l'histoire remonte comme celle de la Chine à une très haute antiquité, s'est vue assigner donc le questionnement sur les origines. Alors, les origines des civilisations, les origines des peuples, des mythes, des langues, donc un questionnement sur les origines. Alors, et là, nous voyons entrer donc dans notre champ de vision, justement, donc sur justement ce nouvel engouement pour l'Inde, nous voyons entrer à la fois l'Angleterre et l'Allemagne, puisque dès 1784, est créée la Asiatic Society, c'est-à-dire donc la Société asiatique, à Calcutta, animée par des sanskritistes britanniques, dont vous avez les noms ici, William Jones, Charles Wilkins ou Henry Thomas Colebrook, sanskritistes britanniques qui jouent un rôle de médiation en quelque sorte comparable à celui des missionnaires jésuites, au moins pour ce qui est donc du travail de traduction qu'ils ont fait de grands textes sacrés, comme la très fameuse Bhagavad Gita. Alors, ces traductions vont alimenter, là je passe très très vite, mais simplement pour vous introduire le paysage, donc ces traductions vont alimenter une indomania romantique qui touche avant tout les penseurs et écrivains allemands, qui sont eux en quête d'un retour à la pureté des origines. Ce qui fait dire, par exemple, en 1803, à Friedrich Schlegel, ici, c'est-à-dire en Inde, se trouve la source de toutes les langues et de l'histoire de l'esprit humain. Tout, sans exception, est originaire de l'Inde. Donc là, vous voyez très nettement ce déplacement à la fois donc de la Chine vers l'Inde et ce déplacement donc des études sanskrites britanniques qui sont basées donc dans une Inde qui commence à être colonisée vers l'Allemagne. Donc la quête romantique allemande des origines finit par établir une sorte de filiation indo-germanique dont certaines dérivent aboutiront aux spéculations délirantes sur la race aryenne que l'on sait, mais dont on va voir qu'elle passe également par la Grèce. Vous verrez comment. C'est peut-être pas évident sur le plan géographique, mais sur le plan philosophique, vous allez voir comment ça se produit. Alors, cette quête européenne des origines, et là j'en arrive à un quatrième facteur, cette quête européenne des origines, qui donc se dessine plus nettement dans la culture allemande, est concomitante d'une volonté de définir la spécificité européenne en termes philosophiques et non plus religieux. La prétention à l'universalité religieuse de la chrétienté européenne, qui était donc mise en avant par les missionnaires chrétiens et qui s'est trouvée mise en question au XVIIe, XVIIIe siècle par justement la découverte de la Chine, cette prétention à l'universalité se trouve réaffirmée sous une nouvelle forme, c'est-à-dire une forme philosophique, par l'Europe des 18e, 19e siècles. Donc, en même temps qu'on assiste à ce déplacement donc, de la Chine vers l'Inde, de la France vers l'Angleterre, ensuite vers l'Allemagne, on voit également un déplacement donc, de la focalisation intellectuelle, donc de la question religieuse vers la question de la philosophie. En effet, dès le tout début du XIXe siècle, l'attention des élites intellectuelles européennes se concentre désormais non plus sur la question de la religion qui a été évacuée par l'athéisme révolutionnaire français, mais sur la philosophie, qui n'est plus d'ailleurs celle des philosophes à la Voltaire, tels que les décrivait Étiamble dans le passage que je vous lisais précédemment, c'est-à-dire Étiamble, si vous vous rappelez, décrivait le philosophe voltairien comme une sorte d'honnête homme militant. À partir du début du XIXe siècle, se profile donc une nouvelle figure du philosophe comme professionnel de la philosophie qui enseigne désormais dans le cadre de chaires universitaires. C'est-à-dire donc que nous avons la nouvelle figure du professeur de philosophie. Alors, quelques publications donc se sont intéressées à la question de savoir comment on est passé si abruptement de la sinomania à ce désenchantement, voire à ce rejet de la Chine, hors de tout ce qui se constituait alors comme le précaré de la suprématie européenne dans tous les domaines. Alors, j'ai cité l'anthologie donc de Marc Crépon, qui s'attache à ce phénomène sous l'angle du glissement de la Chine à l'Inde. J'ai eu pour ma part l'occasion donc de coordonner un numéro de la revue Extrême-Orient, Extrême-Occident, le numéro 27, daté de 2005, qui est consacré à la question « Y a-t-il une philosophie chinoise ?» Et vous trouverez donc dans ce numéro un excellent article d'Anne-Lise Dyck, ça s'écrit D-Y-C-K, qui est intitulé « La Chine hors de la philosophie ». Deux points, essai de généalogie à partir des traditions sinologiques et philosophiques françaises au XIXe siècle. Alors, là, je crois que je vais être obligée de m'arrêter ici pour aujourd'hui, mais je pense que le titre de l'article d'Anne-Lise Dyck nous donne une indication justement des aspects donc, que je serai amenée à traiter la semaine prochaine. Bien. Merci de votre attention. Merci.